Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, on l'a dit tout à l'heure aussi, il est vraiment dans des sens très, très divergents. C'est le moment de voir si on peut faire émerger quelque chose de tout cela.
Qui est contre l'émergence.
Oui, on est contre l'émergence. Pour les ménageurs que nous sommes, ou que nous essayons d'être. Alors voilà, je vous laisse la parole. Je sais que Gauthier avait quelques questions intéressantes pour lancer le débat. Alors, Gauthier, je te laisse la parole. Oui.
J'étais sur une question qui est un petit peu au carrefour des deux interventions, qui est sur la question de l'arbre d'un côté et des rhizomes de l'autre. Déjà, j'aurais voulu un éclaircissement sur ce qui est entendu exactement par rhizome, par rapport justement à ce qu'on a entendu de la part de l'Uversini. Moi, ma première compréhension très intuitive, parce que je suis spécialiste d'un côté des deux, c'est que l'arbre, c'est quand même quelque chose d'assez simple, d'assez statique et d'assez simplifié. Et de l'autre côté, peut-être les rhizomes sont les plus déjà en compte la temporalité, et peut-être d'autres choses. Alors, en fait, de voir comment ça s'applique justement au niveau du management. Est-ce qu'il y aurait d'un côté l'arbre qui serait parlé de la hiérarchie classique, le système hiérarchique pyramidal classique, et que de l'autre, on aurait justement, par exemple, du management sans hiérarchie, plus sur le leadership, plus sur des équipes qui changent, etc. Voilà, c'est déjà vaste. Hein.
Après, Thierry, d'abord.
Moi, je vais vous dire deux choses. C'est encore plus simple. Donc, le rhizome, la différence des arbres, de leurs racines, le rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque, et chacun de ces traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature. Ils mettent en jeu des régimes de signes très différents et même des états de non-signes. Le rhizome, c'est pour ça que c'est pas facile à définir, c'est qu'il échappe à notre définition habituelle de quelque chose qui serait exactement ceci. C'est-à-dire qu'il est plutôt ce qu'on ne sait pas exprimer.
On ne peut pas dire tiens je l'attrape comme ça, ouais. On n'attrape pas un réseau. On attrape pas un réseau.
On peut dire que c'est proche des synapses, non?
On peut.
Ça n'a rien à voir.
J'ai pas entendu.
Les synapses, c'est proche des synapses.
Non, c'est encore autre chose. C'est plutôt. Non, parce que c'est.
Comment dire, c'est pas facile justement de définir le mot rhizome.
Rhizome, c'est plus facile.
Ah bah oui, c'est plus facile. Le rhizome, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas. Alors voilà, on va le dire parce qu'il n'est pas. Ce n'est pas hiérarchique, donc ce n'est pas la structure pyramidale, etc. Ça n'a pas de mémoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc parce que ça surgit, à la différence d'autres notions comme le lieu ou la mémoire, ou l'espace chez Bachelard mémorise, qui sont des éponges à souvenirs, pour dire autrement, le rhizome, lui, non, il apparaît toujours en son éternel recommencement. C'est pour ça qu'il est déroutant. C'est pour ça qu'en fait, que quand j'évoque ça, on préfère l'université rhizomique, on préfère l'université réseautée. Parce que ça, on comprend. Voilà, Paris 12 avec l'ULB, avec la Cambre, avec, je sais pas moi, Louvain-la-Neuve, là, on met en réseau. Ça, c'est facile. Mais rhizomé, on ne voit pas ce que ça voudrait dire. Or, ça voudrait dire que, précisément, on passerait outre les hiérarchies, les statuts des enseignants et des enseignants, par exemple, c'est très fort, et on pourrait très bien commencer un cours en quatrième année. Moi j'étais chargé d'élaborer le plan d'une nouvelle école d'architecture qui aurait eu sa place à l'université en France. Les écoles d'architecture dépendent du ministère de la Culture, les écoles de paysage, du ministère de l'Agriculture en France. Les écoles, les ingénieurs du bâtiment, du BTP, de l'équipement. Donc, à l'université, il n'y a pas ces formations-là. Et il m'avait demandé de lui faire un rapport, et j'avais fait un rapport pour une université d'architecture qui n'aurait pas eu d'année. Plutôt, l'étudiant en entrant dans l'école pouvait prendre de s'inscrire en tel cours en sixième année, tel cours en cinquième, tel cours en première année, ça. Alors tout d'un coup, j'ai eu une discussion avec les responsables administratifs et pédagogiques qui ne comprenaient pas pourquoi il n'y avait pas de base, hein, qu'on appelle des prérequis. Et c'est là où j'ai utilisé l'exemple du rhizome. J'ai dit, ben non, l'enseignement, j'imagine, il est résolu, donc il n'y a pas, on part de là où on est. De là où on part, chacun part de là où il est. Chacun, à la différence du Hobbes tout à l'heure, là, chacun d'entre nous est au début d'un réseau, mais il n'en met pas à la tête, puisque très vite, il sera pris dans d'autres types de constellations. Alors évidemment, ça n'a pas.
On peut remarquer aussi que c'est caché.
Et c'est caché, oui.
C'est pas visible.
C'est pas visible.
J'ai lu énormément en philosophe, et ce sont des aides à penser, ce sont des stimulants, ce sont des excitants. Il en faut, évidemment, c'est certainement un point de la culture largement préservé. Mais c'est vrai que les questions généralement à ne pas poser aux philosophes, c'est qu'est-ce que c'est que parce qu'on a rarement. Et tant mieux, je veux dire, à la limite, ça s'est canalisé, et donc il y a un côté poétique, évidemment, il y a un côté. Et quand on entend Thierry, on va dans des sphères, on arrive dans des. C'est très excitant. Enfin, évidemment, bon, le réseau est plus facile, c'est pour ça que. Alors, juste, il y a quelques aspects quand même que je. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie non plus dans les réseaux. Les réseaux sont des mises à plat, hein, puisque à la limite, on peut imaginer qu'à partir du moment où il y a des nœuds qui sont un tout petit peu plus connectés que d'autres, on peut hiérarchiser les nœuds, et j'avais l'occasion de dire à table que. Malheureusement, nos sociétés sont de plus en plus. Il y a des systèmes de classement dans lesquels les hiérarchies dépendent de plus en plus de la quantité de connexions qu'on a à l'intérieur du réseau. Et pour n'en citer qu'un, Google. C'est pour ça que j'ai parlé beaucoup de Google, parce que Google, son référencement dépend uniquement de la quantité, donc de du positionnement topologique. Donc en fait, notre positionnement topologique commence à conduire à une forme de hiérarchie, mais qui n'est pas explicite, puisque dans ces réseaux, a priori, ils n'étaient pas conçus de manière hiérarchique, ils étaient conçus de manière tout à fait. Enfin, la place. Donc il y a une hiérarchie qu'on peut tirer et qui devient très dangereuse parce que on a parlé de Google, on a parlé aussi des amissages maintenant qui caractérisent tous les chercheurs, qui dépendent aussi du nombre de références que la publication dont les publications ont bénéficié. Donc là aussi c'est la position topologique des écrits d'un chercheur qui le hiérarchise au sein de sa communauté. Donc de fait il y a des hiérarchies auxquelles les réseaux conduisent. Mais si ce n'était pas fait pour ça, je veux dire, c'est presque par hasard, le réseau au départ, c'est une totale mise à plat. Alors, sans début et sans fin, puisque de fait, il croit tout le temps, ces autres, puisque les nœuds arrivent, ils se connaissent.
Ouais, sauf que le réseau de voies ferrées en France, par exemple, le réseau d'autoroute, converge vers Paris.
C'est un gros nœud. Voilà. Même des bruits pour connecter toujours par les.
Là, il y a eu le choix, vous savez bien qu'il y a des débats immenses, il y a des cartes magnifiques, on voit au contraire que des interrelations entre régions. Et puis ça a été un choix de centralisation.
C'est-à-dire qu'une des choses intéressantes dans beaucoup des réseaux qu'on utilise, c'est que toi tu parles d'un réseau qui est assez contraint, c'est-à-dire qu'à un certain moment on veut que tous les nœuds se connectent, alors que beaucoup de réseaux ne le sont pas, ils sont parfaitement organisés. Le web en est un, je veux dire, le web, il n'y a pas de règle de connexion dans le web. Tu veux créer ta page web, tu veux la connecter à n'importe quoi, personne ne te l'interdit. Je dirais que c'est presque le récit d'Internet. Si je veux avoir une adresse IP aujourd'hui, je vais. Donc il y a des réseaux qui ne sont pas contraints. Mais bien sûr, les ingénieurs essaient de mettre la main pour un critère, comme tu disais, un critère que tu débattais, un critère d'efficience, mais qui a évidemment ses travers. On essaie de mettre la main sur les réseaux et de faire un peu mieux fonctionner.
Voilà. Moi, j'avais dit que j'étais venu ici parce que le titre de cette conversation, c'était « Qu'est-ce que nous attend les vivants en matière de fluidité d'échange et d'organisation en réseau ?» Et là, je trouve qu'on est en train de parler. Par contre, qu'est-ce que nous appelons les eaux artificielles en train de vivre, peut-être, ou en train de manipuler les eaux? Donc, d'un côté, je dirais, est-ce qu'on pouvait parler peut-être de ce qu'on pouvait apprendre de la nature en termes d'auto-organisation, de mixes, de réseaux, etc., si c'est encore un sujet d'intérêt que ce soit? Ou sinon, peut-être, une autre perspective, est-ce que on peut voir Internet et les réseaux artificiels comme des réseaux vivants et donc comme des choses duquel on peut apprendre et tirer quelques leçons?
Mais là, on en parlait à table. Oui, oui. En fait, Laurent disait mais la connexion avec le vivant, et il se pose le problème d'un peu la définition du vivant. Moi, je suis très intéressé par ça. Donc, je s'appelle comment définir la vie, parce que j'étais tellement irrité par la multiplication des définitions du vivant que j'ai essayé de les confronter, de les mettre ensemble. Et je me suis rendu compte que de fait, elles convergeaient très peu. Mais néanmoins, pour faire le lien entre les réseaux et les vivants, il y a quand même une place attribuée au réseau dans certaines définitions du vivant. Donc, par exemple, pour vous les citer, parce que c'est encore très controversé, mais il y a une espèce de progression à la définition du vivant. Donc, en général, on considère qu'il faut un métabolisme chimique qui a une certaine organisation, premier réseau, puisque en fait, il y a des réactions chimiques et on sait que toutes les cellules, si on prend que l'organisme vivant minimum est la cellule, à l'intérieur d'une cellule, il y a un métabolisme chimique. Mais le métabolisme en soi ne suffit pas parce qu'en fait, il ne permet pas l'autonomisation du vivant puisque cette chimie-là se mêle à toutes les chimies du monde, donc il faut pouvoir l'autonomiser. Et donc, en fait, mon gourou à moi, la personne qui m'a le plus marqué au plan intellectuel, c'est un biologiste chimien qui s'appelle Varela, et qui, sa définition du vivant, c'était la naissance d'une membrane, et donc c'était la cogénération du réseau et de la membrane. Le réseau générait la membrane. La membrane était absolument indispensable pour séparer le vivant de son milieu. Il fallait... le vivant naît dans cette autonomisation, et en plus la membrane catalysait le réseau, c'est-à-dire que c'était assez extraordinaire, et c'est pensée très féconde, le réseau crée la membrane, et la membrane faisait fonctionner le réseau. Et pour lui, ça s'arrêtait là, c'était la définition du vivant, ça s'appelait l'autopoïèse. On a dit que l'Internet était autopoïétique, que le soleil était positique, on a mis l'autopoïèse à tout le sol, voilà, était assez récupéré. Puis les biologistes ne sont pas d'accord parce que de fait, ces définitions-là ne séparent pas le soleil de la cellule. Parce qu'on peut dire que le soleil aussi, il y a des réactions chimiques ou des réactions nucléaires, mais qu'on pourrait appeler. Et puis il y a une espèce de limite du soleil, on peut dire que le soleil, c'est bon. Et donc qu'est-ce qui différencie le soleil de. Il est tenté compte d'une cellule. Le fait que le biologiste arrive là-dessus et exige de la cellule la reproduction. Alors, ça, on sait bien que le soleil ne se reproduit pas, sinon on le saurait. Et donc, mais Varela a toujours dit que la reproduction n'était pas nécessairement vivant. Mais bon, ça, et alors la reproduction, c'est une cellule qui croit et qui est capable d'en faire une autre, etc. Et beaucoup de biologistes ne se satisfont pas de cette définition non plus. Ils disent que la reproduction n'est pas suffisante, il faut l'évolution. Et une des définitions qui est maintenant la plus courue dans une communauté que je fréquente, après des informaticiens qui s'intéressent à la définition du vivant, c'est que le vivant est un organisme qui est capable d'évoluer. Mais évidemment, évoluer nécessite toutes les étapes précédentes, parce que pour évoluer, il faut que le fils se différencie du père, donc il faut une autonomisation, il faut que le fils soit différent du père, pour que la sélection puisse sélectionner un des deux. Et donc, en fait, d'une certaine manière, cette définition-là, un organisme capable d'évolution darwinienne, parce que c'est la seule évolution qu'on connaît, c'est la définition qui, d'une certaine manière, résume. Sauf que beaucoup de biologistes disent non, il y a des organismes qui s'automaintiennent par ce flux énergétique, parce que le métabolisme, et ça suffit au vivant. Donc c'est pour faire simplement une petite connexion entre réseau et vivant.
En effet, l'évolution elle-même est un phénomène d'émergence. Parce que l'évolution est due à des mutations spontanées et casuelles dans le DNA. Et donc, c'est quelque chose qui ne dépend pas d'une volonté ou d'une adaptation à l'environnement, c'est juste quelque chose qui progresse au fur et à mesure. Mais en termes d'émergence, c'est une évolution, mais autrement, c'est juste une série de changements et de plus vite survie.
Moi, je suis content d'associer émergence à évolution, puisque de fait, c'est la seule niche un peu épistémologique que je laisse à l'émergence, c'est la liée à l'évolution. Peut-être pas exactement comme vous disiez, mais dire que l'évolution est une émergence, pour moi, c'est pas assez. Pour moi, il y a émergence, quand un groupe d'agents simples trouve c'est-à-dire que le problème, juste parce que pour vous montrer mon problème philosophique avec une agence, c'est un sujet très un peu rabattu comme beaucoup d'autres. Qui est très stimulant parce que ça émerge. Le tout est plus que la somme des parties, mais c'est quoi le tout, c'est quoi les parties, pourquoi est-ce qu'il est tout, etc. Et donc je me suis beaucoup intéressé à ça, et en fait c'est un débat avec les philosophes britanniques ont beaucoup, et à l'ULB on a Isabel Sengers avec lequel je suis occupé sur cette notion-là, qui a écrit beaucoup de choses là-dessus. Et donc même le pape, j'ai vu un concile où le pape a dit la science sera sauvée grâce à ces phénomènes d'émergence, donc on la met à toutes les choses, parce qu'elle a un côté un peu mystique. Et donc c'est pour ça que je me suis battu contre ça, parce que je trouvais que d'une certaine manière l'émergentisme, c'était un peu, ça allait à l'encontre de la démarche scientifique, qui généralement consiste à essayer de comprendre les parties lors de l'observation du tout, sans négliger le fait que les langages scientifiques peuvent fonctionner à différents niveaux. Je n'ai pas de problème à considérer que la psychologie, une certaine, on n'a pas besoin pour être un bon psychologue de connaître le fonctionnement des synapses. Mais ce n'est pas pour ça que le fonctionnement des synapses ne pourrait pas apporter quelque chose d'important. Donc je me suis un peu opposé à ce mot d'émergence, parce qu'il avait un caractère mystique qui est généralement un peu délicat quand on fait des sciences. Mais en revanche, en biologie, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on ne peut pas comprendre le comportement collectif d'une cellule, des oiseaux, des fourmis, sans le mettre à la lumière de la sélection naturelle. Donc il y a un comportement collectif qui est sélectionné, il y a un physicien qui s'appelle Stuart Kaufman qui dit: on a beau connaître toute la physique du cœur, par exemple si vous êtes un physicien et que vous étudiez le cœur, vous faites des équations de Navier-Stokes, etc., donc vous pouvez faire une analyse parfaite du cœur, mais il n'y a qu'une manière de comprendre le cœur, c'est la sélection naturelle. C'est-à-dire que le cœur est une pompe, il a une fonction, et donc il a été sélectionné parce qu'il avait cette fonction-là, etc. Et donc, il faut le discours de la sélection naturelle qui apporte un caractère d'origine, enfin un peu original.
Je suis tout à fait d'accord sur la propension de la sélection naturelle et le principe de la sélection naturelle. Pour l'organisation en réseau, pour les réseaux qu'on peut tirer aussi d'un point de vue technique, et pour essayer de porter la discussion avec dans un sujet un peu plus technique, je parlerai de la sécurité des réseaux. Vous savez qu'il y a c'est un grand débat, comment assurer la sécurité des réseaux de transactions, parce qu'il y a des interconnexions et tout ça. Mais en effet, l'Internet elle-même, il a évolué les derniers 20 ans, 30 ans, et la forte évolution depuis ces débuts, d'une façon qui n'était pas du tout programmée, pas du tout prévue, ni calculée. Et ceci grâce à des défauts de sécurité. Grâce, en effet, c'est comme dans l'évolution naturelle, ça progresse grâce à des erreurs dans la transmission des chaînes de DNA. Si la transmission des chaînes de DNA était parfaite et il n'y avait pas de mutation, nous, on serait des amètes, ou même pas des amètes, parce qu'il n'y avait même pas les amètes. Donc, les erreurs, en effet, dans la transmission des connaissances sont importantes et fondamentaux pour l'évolution. La même chose, si un système informatique, un système en Internet était 100% sûr, donc s'il n'y avait pas la possibilité pour des exceptions, pour des choses différentes de la norme, de se présenter et de commencer, par exemple, je sais pas, Skype. Skype, dans le progrès de l'Internet, ça a marqué un pas, parce que c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Tous les scientifiques, tous les informaticiens disaient que c'était impossible de transmettre la voix sur une pièce, sur une lance. C'est l'italien, il est arrivé, c'est espagnol, et il a fait ce système, et il a jeté au sol la plupart des opérateurs de télécom du monde. Donc, s'il y a
des erreurs, c'est pas aléatoire, hein, Skype.
Non, c'est pas aléatoire, mais c'était quand même grâce à l'erreur de calcul du système. Le système ne l'avait pas prévu. C'était quelque chose, le système avait laissé ouvert l'espace pour des phénomènes.
Je crois que c'est une chose, pour une fois, il y a quelque chose qui est décentralisé. Mm-hmm. Vous voulez faire une bagnole? Ouais. Il y a 10 personnes au monde qui peuvent décider, c'est 50, hein, j'en sais rien, qui disent voilà, on va faire une nouvelle voiture, il y a 50 personnes qui peuvent décider. Moi, si j'avais un peu de connaissances informatiques, je pourrais demain décider de faire un truc, il n'y a personne qui peut m'en empêcher et faire ça le week-end avec trois copains, quoi. c'est un peu ce qui se passe, c'est que c'est tout à fait décentralisé, tout le monde peut le faire, et puis après, et après, c'est, comme il y a beaucoup de gens qui peuvent l'utiliser, ça
se fait. C'est la structure de l'Internet, mais si l'Internet est un système très contrôlé et très fermé, vous n'avez pas la possibilité
de le faire. Je crois qu'on tourne sur l'analogie de la sécurité de l'Internet, qui est la membrane. Et la membrane qui a une ouverture qui permet. Parce qu'en fait, on construit. Enfin, l'Internet est déconstruit sur des protocoles dont on anticipe hein, une utilisation. Mais le SCARF n'avait pas été utilisé. Et il y a certainement en plus des protocoles qui sont construits pour empêcher que certains modèles business se développent sur le dos de l'Internet. Donc, moi, je crois que c'est un très bon
exemple. Non, mais je reviens, moi, c'est mon exemple. Tu veux construire une bagnole, tu as 250 000 brevets, donc déjà, tu ne peux pas la construire. Tu dois mettre un paquet de pognon. Il faut, pour le vendre, il y a une telle porte d'entrée monstrueuse que ça devient centralisé. Internet, c'est un truc qui... C'est un moyen. En effet, tu peux avoir des applications qui sont bien ou qui sont pas bien, ça, je ne peux pas les juger, mais que... Le ticket d'entrée n'est pas cher. Le marketing se fait bien si tu es un peu intelligent et si tu as quelque chose de bien. Et tu n'as pas des brevets dans tous les sens, etc. etc. Donc, ça permet de décentraliser. Je pense que ça prouve que les systèmes centralisés ne sont peut-être pas les meilleurs. Alors, je viens un peu au réseau, mais à l'arc, je ne sais pas si c'est ça, parce que je n'ai pas très bien compris ce que vous avez dit, mais ce n'est pas le seul choix. Mais le truc prouve que c'est un système qui n'est pas verrouillé par toute une série de choses, mais il y a des choses qui avancent beaucoup plus vite que dans des systèmes verrouillés. Je vois ça un peu l'extérieur.
C'est à nouveau au niveau du management, je pense que il y a toute une série de réflexions qui sont menées en ce sens aujourd'hui pour justement, alors, est-ce que c'est aller plus vers le rhizome, plus vers les réseaux, je ne saurais pas me prononcer là-dessus aujourd'hui, mais qui effectivement décentralise et qui laisse, alors je vais utiliser le mot que tu n'aimes pas, mais émerger de nouvelles idées beaucoup plus facilement que dans une hiérarchie classique. Et ça rejoint un peu ton idée.
Oui, c'est un peu ce... C'est un peu de cela. Et ce que vous avez dit tantôt, c'était que le manager ou le ménager, donc ça veut dire que le manager, c'est un faiseur de réseau, et bien on peut prendre ça d'un côté très, très négatif qui est ben, il est tous les milieux, certes, de Lorraine ou ailleurs, hein, et sert des pinces, ou justement, c'est quelqu'un qui arrive à décentraliser. Et à faire émerger de partout des idées et à les connecter.
Il y a dans le monde d'aujourd'hui, justement, ça je vous conseille de lire, il y a tout un débat sur Wikipédia. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ou c'était celui d'hier. Il y a vraiment trois pages, et je trouve extrêmement bien fait sur justement la confrontation d'un système, en tout cas plus hiérarchisé, avec une expertise reconnue, avec des encyclopédistes reconnus, et l'encyclopédie Wikipédia, qui a priori est totalement auto-organisée. Il y a toute une réflexion extrêmement qui n'est pas en faveur de l'un ou de l'autre. Il y a eu un professeur en France, Pierre Assouline, qui avait beaucoup critiqué Wikipédia. Et on sait que Wikipédia n'est pas à l'abri de... Bon, en même temps, mais ça prouve que ce n'est pas aussi vrai. C'est-à-dire que le côté... Moi, je suis un peu idéologique, donc le côté libertaire, auto-organisé, spontané, mis à plat du web. Il y a des cas qui sont sortis sur les Wikileaks, Wiki machin, Wiki, tout le monde y va, tout le monde est expert, tout le monde y va. Donc c'est vrai que c'est bien, ça semble débrider la créativité, etc. Donc pourquoi pas. Mais en même temps, tu sens bien que même dans le fonctionnement de Wikipédia, tu sens qu'ils font un contrôle parce que très très vite, ils racontaient le nombre d'interventions qu'ils ont eues. Parce que il paraît qu'un des articles qui a été le plus débattu, c'est l'âge d'Ariel Dombal. Que ça soit son âge, il paraît, et que tout le monde y va à une proposition, et il paraît que ça, c'est terrible, l'âge d'Ariel Dombal, ça fait tout le monde y va. Je sais pas. Non, mais et donc on peut aussi, et à un moment, il paraît qu'il y a dans tous les pays, Wikipédia, il y a quand même, je sais pas, une centaine de personnes là. Il y a un comité qui interrompt, il y en a qui ils interviennent très souvent. Donc il faut vachement réguler Wikipédia pour que cette encyclopédie puisse fonctionner, parce que tout et n'importe quoi, c'est donc il y a une espèce d'équilibre à trouver entre la spontanéité de l'organisation et quand même un mécanisme un peu centralisé qui dise bon, là on arrête, celui-là on ne veut plus le voir intervenir dans Wikipédia parce que c'est un putain de merde, il voit des morts partout parce que tous les. Il paraît que. Alors c'est vrai qu'à cette fois, c'est que quand tu mets une connerie sur Wikipédia, elle paraît qu'en 2 ou 3 minutes elle disparaît. Alors, c'est une vraie connerie qui dérange personne, je sais pas, moi, Sarkozy est mort, ça ne va pas durer longtemps sur son site. Mais à part ça, il y a quand même beaucoup de conneries qui restent parce que ça n'intéresse personne. Donc il y a tout un débat qui ne tranche pas vraiment en faveur de l'auto-organisation des bruits.
Moi, il ne faut pas croire que je suis pour l'auto-régulation parce que je pense qu'il y a des tas d'exemples qui montrent que ça ne fonctionne pas très bien l'auto-régulation. Mais par contre, on peut dire que tout doit partir d'un seul centre.
Oui, oui.
C'est autre chose, et c'est pour ça que je dis les réseaux. Alors, bon, est-ce que c'est des réseaux ou des réseaux? Je ne suis pas assez pointu pour dire quoi que ce soit, mais je dirais plutôt que les réseaux, la connexion, alors que ça peut être vu comme quelque chose de très négatif, ça peut l'être, hein. C'est celui qui a un carnet d'adresses comme ça et qui sait ouvrir toutes les portes, ça peut, c'est les réseaux de dire un petit peu négatif. Par contre, quelqu'un qui arrive à faire travailler des gens en réseau, ben, on en cherche beaucoup dans l'industrie, parce que ça, c'est extrêmement utile. Et tout le monde connaît des gens d'une qualité assez moindre, qui est un peu comme les robots, grâce au réseau, arrivent à passer le fossé. Mais lui tout seul, il tombe dedans. Hein. Et alors, pourtant, il n'y a pas d'âge de fossé. Ça prouve l'efficacité du réseau.
Moi, je dirais que la différence, c'est un peu comme la différence entre... l'auto-organisation, c'est un peu comme la démocratie. C'est quelque chose qui n'est pas parfait, qui a beaucoup de problèmes, et que tout le monde reconnaît, mais quand même on ne trouve pas encore une alternative meilleure à ça. Et donc, si on peut faire une démocratie ou une autocratie, c'est une question aussi de choix politique, peut-être, mais à niveau des réseaux, ce qui compte, c'est aussi l'efficacité. Et il y a des solutions maintenant, il y a de la recherche dans le domaine, pas de crowdsourcing, donc de la totale démocratie, mais dans quelque chose qui est à moitié entre la totale désorganisation et self-contrôle, et un minimum de contrôle par des gens, mais pas par n'importe qui, mais par des gens qui peuvent démontrer une compétence, des connaissances dans des domaines spécifiques qui concernent certaines parties des connaissances. Et ça s'appelle le curate de smart sourcing, en général. Et ça, ce sont des modèles d'organisation nouveaux qui sont en train d'émerger. Et peut-être là, on pouvait s'en recouper et en discuter parce que c'est quelque chose de très spécifique et très intéressant parce que ça pourrait être aussi un modèle pour l'organisation de la société. Parce que la démocratie est bien, mais la démocratie. Moi, je l'utilise sur ça, je me l'expose à la fin.
Il y a longtemps, chez lui, regarde ce qu'a fait Toyota. Ouais. Toyota, au lieu de demander aux ingénieurs comment il faut les monter une porte, ils l'ont demandé aux ouvriers. Mm-hmm. Et c'est devenu les meilleurs bagnoles du monde.
Ouais. C'est un nouveau volet.
Ouais.
On a parlé un peu des villes, et vous ne sembliez pas avoir une autre idée de l'idée du Grand Paris. Petite question pour vous, en fait, qui écrivait un livre sur l'amitié, qui est philosophe, urbaniste, etc. Est-ce que vous avez rêvé la ville qui favoriserait les relations amicales? Ça ressemblerait à quoi?
D'abord, il y a plein de voyages. Voilà. C'est pas pour fuir,
c'est pour la promenade.
Ça
revient
même. Parce que la question a été posée sur le vivant, et en fait, non, dans ce qu'on appelle l'urbanisme, qui est une discipline assez récente, là, je vous ferai remarquer que ce n'est pas urbanologie, psychologie, anthropologie, sociologie. L'urbanisme, c'est un truc très bizarre, ça, que, et c'est architecture, c'est pas architecture. Là, il y a des choses assez curieuses qui font que ce sont des domaines, mais qui ne sont pas des disciplines. Quoi. Et dès le début de l'architecture et l'urbanisme, dès que le mot apparaît en 1910 en française, tout de suite, on l'associe au vivant et à l'organisme. On dit la vie est un organisme vivant qui croît, se développe, dépérit, meurt, etc. Et aujourd'hui, les nouvelles théories les plus originales qui viennent secouer un peu les certitudes des urbanistes en France, c'est la permaculture, c'est la résilience et c'est l'incrémentalisme. C'est-à-dire trois notions qui viennent du vivant, donc voilà, là on n'a pas le temps. Dorénavant, on ne peut plus trop réfléchir. Donc incrémentalisme, résilience, je répète parce que. Et puis, la permaculture. Donc la permaculture, ça a permis de lancer, ça vient d'Australie, donc c'est l'agriculture permanente, ça veut dire permaculture. Et donc là, on est dans les rythmiques, et c'est ce qui nourrit les villes en transition, qui est un courant qui naît en Angleterre, où là, on imagine des villes à l'heure du pic pétrolier, c'est-à-dire en 2020. Et donc déjà, on imagine sa forme. Une forme modeste, 30 000, 40 000 habitants, un habitat plutôt compact, mais pas forcément dense, et puis avec des circuits courts au niveau agricole, au niveau des échanges intellectuels, etc. Donc, on a une configuration très particulière pour la mise en transition. La résilience, c'est un terme que vous savez qui vient de la physique des matériaux à la fin du 19e siècle, et ça explique que en quoi, c'est vraiment aussi par des psychologues et des psychanalystes en France en particulier, bon, ça explique comment chacun trouve en lui-même les réponses à sa crise, à sa propre difficulté, à son deuil, à s'orienter dans la vie, etc. Donc, c'est à la fois la conscience de soi de Emerson, mais multipliée par une capacité à reprendre le dessus sur tout ce qui est en train de vous émietter de l'intérieur. Bon, alors au niveau de la ville résiliente, c'est la ville qui doit trouver dans ses réserves personnelles ses propres atouts. Ce qui veut dire qu'aucune ville n'est semblable à une autre. Ce qui casse le principe républicain, par exemple, de l'État français, on considère que toutes les villes devraient avoir la même chance. Toutes les villes pourraient être patrimonialisées, paysagisées, etc. Alors là, on va répondre, non, certaines plus que d'autres. Ça dépend de son site géographique, ça dépend de sa population, ça dépend de tout. Donc là, ça va à l'encontre de tout un domaine anglo-saxon autour d'un chercheur qui s'appelle Richard Florida, qui a lancé l'idée de ville créative. Donc les trois villes dont on vous parle, la ville incrémentaliste, résiliente ou permaculturée, ne répondent pas à la ville créative. La ville créative, c'est Florida qui a vendu ça et ça marche très bien. Il l'a fait pour Dubaï, Abu Dhabi, Montréal, bientôt Paris. C'est très cher, hein. Mais il va venir à Bruxelles et il va expliquer que il faut, voilà, pour qu'une ville soit créative, il faut qu'elle puisse associer, combiner les trois T, tolérance, technologie et talent. Alors, le talent, ce sont les artistes, la tolérance, ce sont les homosexuels, et la technologie, et là, c'est les industries des jeux vidéo, de la. Voilà. Donc, si vous arrivez à mélanger ces trois ingrédients-là, là, vous êtes au top. Oui, parade des villes internationales. Donc, évidemment, c'est plutôt, bien sûr, parce que ça marche comme ça. Dans le Grand Paris, si je vais y arriver, dans le Grand Paris, si je fais le Grand Paris des artistes, par exemple, les ateliers d'artistes, ils ne sont plus dans Paris. Ils sont à 30, 20, 40, 50, 60 km parce qu'un sculpteur ou un peintre, il a besoin de beaucoup de superficie pour stocker ses œuvres et pour avoir un atelier. Et donc, évidemment, il n'est pas à Paris où le coût du mètre carré est tellement excessif que c'est absurde. Donc, on voit bien que l'idée de combiner trois types de thé ne marche pas comme ça. J'ai publié dans la revue Urbanisme un article excellent sur le Marais qui est un quartier gay. La réponse était non au niveau de la résidence, était oui au niveau des lieux de rendez-vous. Donc, c'est déjà deux choses totalement. Là, on est dans les temporalités. Alors, la démocratie, vous l'évoquiez comme ça, mais le problème, c'est qu'elle n'existe plus. Donc là, je suis très ferme, c'est que je pense que ça n'existe pas, la démocratie. C'est-à-dire que c'est l'enjeu, précisément. Le premier parti politique au monde, c'est le parti des abstentionnistes, ce qui montre l'échec de la démocratie. La démocratie qui existe en France, c'est la démocratie du soleil, je vote là où je dors. Pas là où je crée, pas là où j'aime, pas là où je travaille, pas là où je consomme. Donc moi, par exemple, j'avais choisi la loi, j'ai écrit depuis très longtemps, je veux voter pour mon maire, mais je veux aussi voter pour le maire de Paris, c'est ma ville. Peut-être Bruxelles, qui est une ville que j'aime bien, donc je vais voter dans trois endroits différents. Ben, c'est pas demain qu'on l'acceptera. Donc je pense qu'il faut repenser la territorialité de la pratique démocratique. Et ça, c'est pas simple. Et en France, même si tout le monde est contre, parce qu'il n'y aura pas cette mobilisation, parce que la démocratie ne parle plus à personne. Alors, d'ailleurs, le mot n'a jamais été autant employé, mais je prends le Grand Paris, il n'y a aucune réflexion sur la gouvernementalité. Moi, je pense que la démocratie de 11 millions d'habitants, ce n'est pas possible. Donc, je pense, au contraire, qu'il faut, comme en 1860, Paris est passé de 12 à 20 arrondissements. Je pense qu'en 2012 ou 2014, on pourrait passer de 20 à 30 arrondissements et ce sera tout. Voilà, et on s'arrête là. Après, on peut faire une assemblée des 1200 communes du Grand Paris, des 11 millions d'habitants, mais c'est autre chose. Avec une pratique démocratique, c'est qu'il faut inventer des outils. Donc moi, ça fait des années, je demande le droit de vote à 12 ans. Tout le monde ricane, mais je pense que les gens ont tort de ce qu'on peut voir, parce que si on ne mobilise pas les enfants adolescents par des classes de ville, par des classes de promenade démocratique, justement, où on apprend les lieux du pouvoir civique, si on ne revient pas à Patrick Guedes et à sa Outlook Tower, si on ne revient pas à cette espèce d'association entre un territoire et les individus qui y sont, c'est-à-dire si on ne recrée pas les conditions d'un acte d'amour entre une population et son territoire, le territoire n'existera pas. Et donc, à ce moment-là, toute technocratie, toute manipulation sera possible. Et si un enfant à 12 ans qui commence à avoir l'âge de raison, qui n'a plus à 90 ans, mais qui n'est pas... Alors, évidemment, il ne faudrait pas être consultatif. En France, il y a 836 conseils municipaux pour en France. Donc, 36 000 communes. C'est dérisoire. Les 836 conseils municipaux pour enfants n'ont aucun droit de décision. C'est uniquement consultatif. Donc, comme on dit dans les cours de récré, ça compte pour du beurre. Enfin, ils disent ça maintenant, ils ont le vocabulaire. Ça veut dire que ça ne marche pas. Donc, ils n'y vont pas, ça ne les mobilise pas. Si on ne part pas des gens, on n'aura aucune transformation d'un territoire ou de la démocratie. Or, en France, la politique de la ville, je connais très bien, depuis près de 30 ans, mise sur les lieux, on attribue une aide à tel grand ensemble, à tel quartier en difficulté, à telle ville, pas aux gens. Et ça foire totalement. C'est un échec. C'est des milliards qui ne servent à rien. Moi, j'ai visité j'ai fait des émissions de radio sur les grands ensembles réhabilités par un architecte. Imaginez une barre, vous voyez. Et tout d'un coup, devant chaque fenêtre, il avait mis un faux balcon. Il y a un balcon, mais il n'y a pas de sol, parce qu'il n'y avait pas de porte-fenêtre. Pour modifier la rythmique de l'architecture, pour casser la banalisation de la. Tous les gens que j'interrogeais, ils les connaissent. Ils étaient à côté des millions. On ouvre le fenêtre, on voit devant chez nous un truc qui est percé, et on ne peut pas sortir dessus. C'est absurde. Alors, 5 ans plus tard, nouveau plan de rénovation urbaine, ce sont des milliards. Et ça passe jamais par les gens. Il n'y a pas de comité d'habitants. Il n'y a pas de concertation. Il n'y a pas de participation. Ce sont des notions les plus difficiles. Moi, j'enseigne l'urbanisme, la philosophie urbaine. Aucun des étudiants n'a un cours de participation des habitants. Je suis membre du conseil d'administration de deux écoles d'architecture, dont les plus importantes en France, l'école de Paris-Lavillette, où il y a 2200 étudiants. Je regarde la plaquette, il n'y a pas un cours de participation des habitants. Comment voulez-vous après que ça marche ? C'est pas possible. L'étudiant lui-même ne le sait pas. Il devient après, il voit ça dans la loi. Dans la loi, oui, ça figure. C'est pas très bien fait, la loi en France. Partout, il y a concertation et participation. Mais il n'y a pas le savoir-faire pour ça, et il n'y a pas l'attention pour ça. Donc il faut que. C'est pour ça que je reviens toujours à la rythmique qui est en train de se. La démocratie, c'est du temps. J'en parle beaucoup avec mon ami Paul Virilio. La démocratie, c'est du temps. Si on n'a pas de temps, on ne peut pas débattre. L'agora grec, le mot agora vient du grec ageraim, qui veut dire assembler, s'assembler. L'agora, c'est nous ce soir. Ce n'est pas une place physique. On s'en fout de la place, on s'en fout de cette forme. Ce n'est pas un lieu. L'agora, c'est nous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça la force de l'agora. Aguerran,
ça sont les. Et donc, si on était tous debout par là, l'agora aurait été forme. On serait un peu plus éparpillé, il y aurait une autre forme. Maintenant, nous, dans les grands ensembles, on fait une agora. L'architecte appelle ça agora. Il met une espèce d'amphithéâtre en plein air, où il n'y a jamais personne qui vient y stationner, parce que c'est à la vue de tout le monde, donc on n'a pas flirté là. C'est à la vue de tout le monde, dont les enfants ont vraiment du jeu là. Donc, du coup, ça ne sert à rien, mais ça s'appelle l'agora d'Evry, l'agora de Le Grigny-Grande-Borne. Bon, c'est la ridicule inouïe. Parce que, encore une fois, on a préféré du formel à du sens. C'est pour ça que je reviens toujours au mot. Mais parce que je suis convaincu que c'est un vrai combat. Alors, pour le Grand Paris, quelle serait la ville?
Je crois que c'est parler, mais
non, je vais voir les noms.
Je vais pas à répondre hein, dans tout ce que vous avez dit. Hein.
Je vous donner ma réponse, elle est très simple. Ça fait des années que je travaille sur l'utopie, j'ai 3 ou 15 ans sur l'utopie, donc je sais très bien la place qu'occupe la ville dans l'utopie. La ville, elle sera multiple. Donc, je ne peux pas vous répondre en disant qu'il n'y aura qu'une ville agréable, il y en aura plusieurs. Mais ce qui me semble s'orienter vers tout ce qui est en train de se modifier en ce moment, c'est qu'on va vers des villes de ce que j'appelle des unités territoriales urbaines. C'est-à-dire que je pense que pour qu'une... Donc c'est pas une ville, vous voyez, le mot ville est très trompeur. Je veux plus utiliser ce mot. Depuis 1858, juridiquement en France, une ville, c'est plus de 2000 habitants répartis dans un habitat séparé par moins de 200 mètres. Donner une espèce d'idée de capacité. Mais quand un étudiant, comme moi, je parle d'une ville de 2000 habitants et d'une ville de 20 millions d'habitants, je ne parle pas de la même chose. Or, j'ai le même niveau. Donc, déjà, il n'y a pas de raison. Alors, j'essaie de comprendre comment s'était passée l'urbanisation planétaire. L'urbanisation planétaire dans les planètes, que c'est une chose qu'il faut avoir en tête, et heureusement qu'on discute encore philosophe, donc j'en avais parlé avec Michel Serres, qui j'ai une très grande tendresse plutôt qu'une médecine matérielle, parce que je peux toujours être avec lui, mais il me vient, et il me faisait remarquer que depuis, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, les paysanneries étaient minoritaires dans le monde. Culturellement, économiquement, totalement subordonnées à l'agroalimentaire planétaire. Et le paysan malien, ou indien, j'ai constaté. C'est pas des pécores, ils connaissent Internet aussi, ils sont branchés sur la bourse mondiale des biens agroalimentaires qui est à Chicago. Ils savent très bien que le cacao baisse, que le thé baisse, que le sucre baisse, ils le savent très bien. Donc, c'est une chose à laquelle on n'avait jamais songé. Le fait urbain naît de la campagne, naît de la domestication des plantes et des animaux. Sans surplus agricole, pas de ville, il y a 8000 ans avant notre ère. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ce qui faisait ville, aujourd'hui, n'existe plus. Ce qui fait que la ville se défait aussi. Donc aujourd'hui, il y a des villes, bien sûr, mais il y a surtout des non-villes. Et il y a surtout des contre-villes. Alors la question fondamentale et existentielle, je suis au conseil scientifique de la DACAR. Enfin, je vous raconte cette anecdote. Ils ont eu tort de me nommer. J'ai des économistes, des géographes, des agronomes, des gens très savants, qui font des projections de trends, de chiffres, de tendances, de 2010, 2011 à 2030. Et moi, je leur rends mon rapport en expliquant que le futur, pour un philosophe, ça ne veut rien dire, que l'avenir, ça ne veut rien dire, que des philosophes qui pensent en termes une temporalité qu'ils ne connaissent pas encore, réfléchissent sur ce qui advient. Le philosophe réfléchit sur l'advenir. Alors, si je dis ça, ce n'est pas par coquetterie de vocabulaire, c'est que l'advenir, ce n'est pas l'avenir, ce n'est pas le futur. On en parlait à table tout à l'heure. La majorité des langues du monde ignorent le futur. Il faut savoir. Nous, on a une langue qui a une conjugaison au futur. Ça, c'est le premier point. Quand j'ai dû réfléchir à la France de 2040, première fois, j'ai dit la France n'existe plus, peut-être. Mes autres collègues, on va dire, je vais dire, tout, ils avaient prolongé, la France la même, sauf que du coup, il y a plus d'habitants dans telle région, dans les autres, à cause du question de la population, à cause de l'immigration, la virésidentialisation, nous avons. Donc, il dessinait une France, mais qui, pour moi, n'existe pas. Et moi, au niveau de l'avenir, je disais que la question fondamentale de l'être humain sera en 2030, en 2040, comme aujourd'hui, c'est-à-dire à essayer d'habiter le monde, c'est-à-dire à essayer d'être présent sur la Terre et avec autrui. Ce qui veut dire que la condition existentielle fondamentale qui nous préoccupe, c'est comment être avec et parmi. Or, nous sommes de plus en plus avec sans être parmi, ou de plus en plus parmi sans être avec. Ce qui est le cas des réseaux Internet. Je suis parmi une liste d'adresses, mais je ne suis pas avec. Ou je suis avec, mais je ne suis pas parmi. Et c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait une rencontre physique sur la place Faïr, et pas simplement sur Internet. Donc, notre enjeu, il est là. Être avec et être parmi. Ce que Hannah Arendt appelle en commun, mais peu importe, chaque philosophe a son truc. Moi, je dis être avec et être parmi, ça me plaît. Mais voilà, et bien, c'est pas gagné. Alors, au niveau formel, maintenant, au niveau de configuration territoriale, je pense que, effectivement, pour que l'individu ait accès à des soins, à une formation, à tout ce qu'il réclame pour sa vie quotidienne, on ne peut pas être. Alors là, je parle des travaux d'un économiste belge qui s'appelle Paul Béroc, qui a beaucoup travaillé sur les villes. Il est mort il y a quelques années, il est enseignant à Genève. Et il a beaucoup travaillé sur la taille idéale de la ville contemporaine. C'est un sujet passionnant et très très peu traité. Et lui, il est arrivé à la louche à 1 million. Pour un territoire, pas pour une ville. Il faut que cette ville, peut-être à 300 000 habitants, 5-6 autres villes de 30 000, 20 villes de 3 000, voilà. Mais il faut qu'il y ait ce que moi, du coup, j'appelle une unité territoriale urbaine. Pourquoi urbaine? Parce que dans cette unité territoriale, les paysans sont minoritaires et même les paysans réclament un mode de vie comme les urbains. Et là, je renvoie à un auteur belge que j'aime beaucoup, Émile Van der Velde, qui en 1903 a écrit un ouvrage extraordinaire sur l'exode rural, dans lequel il traite de l'exode urbain. Et l'expression est sous sa plume. C'est d'une intelligence inouïe. Il dit, voilà, les villages périclites, les fameuses campagnes hallucinées de l'Arène, de 1893, les campagnes périclites, repeuplerons-les par des citadins qui, du coup, apporteront l'intelligence collective de la ville dans les campagnes, permettront au commerce de rester sur place et aux paysans de vendre leur production. Donc, tout le monde y gagne. Alors, voilà un premier schéma. C'est-à-dire que je pense que, alors je le dis pour l'Hexagone, mais c'est pareil pour la Belgique, pour l'Allemagne, etc. Je pense que, pour l'Italie, je pense qu'il nous faut des unités territoriales. Alors, en Italie, il y a un mouvement qui a été créé le 2 décembre dernier, qui s'appelle le Congrès des territorialistes, qui est porté par un homme absolument admirable, qui s'appelle Alberto Magnaghi, qui a publié chez Bardaga à Liège en 2003 la parution française de son livre de 2001, le projet local, où il explique justement comment il faut recréer une territorialité afin de casser ce couple diabolique global-local qui n'est pas celui que chacun d'entre nous vit réellement, mais que nous impose. Donc, il y aura encore des villes comme Namur, Gand, Bruges, Lyon, Marseille. Il y aura évidemment aussi la population qui réside dans des maisons individuelles, car je suis contre leur diabolisation. Je pense que c'est trop facile de diaboliser la maison individuelle et l'étalement humain. Ce qu'il faut, c'est inventer un urbanisme de la maison individuelle. Et ça, évidemment, c'est une décision collective. C'est pour ça que je pense qu'il faut décentraliser les responsabilités à ces unités territoriales urbaines, qui, chacune, aura une taille différente, évidemment, selon la population qui y réside. Alors maintenant, évidemment, au niveau des mobilités, parce que je pense qu'on ne pourra pas faire autrement que décroître. Même si avec mon ami Serge Latouche, je discute beaucoup de la décroissance, je pense qu'il faudra décroître nos mobilités, c'est certainement. Et donc, par exemple, si le commerce en ligne se développe, vous habitez à 30 km des tours de Clermont-Ferrand, et bien les taxis de Clermont-Ferrand, qui ont des heures creuses, pendant ces heures creuses, livrent les marchandises qui sont arrivées à Clermont-Ferrand dans les 30 ou 40 km aux alentours. dans un endroit qu'on appelle la maison des temps. Je suggère ça parce que j'en ai toujours la temporalité. Par exemple, le mardi dans tel village, le mercredi dans tel autre, etc. Donc, ce qui fait que là, on a eu un regain d'activité locale. Et en même temps, évidemment, on n'est pas isolé, parce qu'il ne faut pas non plus croire que l'image toujours habituelle des écologistes, c'est de démontrer que les gens passéistes et totalement d'une autre époque. Quand Émile Zola a écrit son roman futuriste Travail, en 1901, juste avant que je sois assassiné, que vous le savez, Émile Zola décrit, c'est le seul roman de science-fiction d'Émile Zola, que je l'ai réédité en préparation pour expliquer comment il l'a conçu. Il l'a conçu en lisant Ebenezer Howard et Kropotkin. Il était en exil à Londres à cause de l'affaire Dreyfus. Il les a rencontrés. Kropotkin, voilà un auteur important. On déconne. Pas seulement sur l'entraide. L'entraide de Kropotkin, c'est comment le vivant nous permet de comprendre l'humain.
On va l'aborder dans un prochain film. Bon, il est déjà 10h05.
Et non, je vais commencer juste. Ouais. Non, je vais
est-ce qu'il y a encore une question brûlante sur les lèvres de quelqu'un?
Ouais. Moi, c'est juste une toute petite question. J'espère que la réponse sera très brève. Vous allez aborder la question de la langue maternelle. Tantôt, mais je n'ai pas très bien compris quelle définition. Enfin, bon, j'ai bien entendu qu'on ne peut pas poser aux philosophes qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comment ça intervient?
Non, ça intervient parce que, j'essaie de réfléchir beaucoup sur ce qui caractérise, ce qui singularise chaque être humain. Je constatais à la suite de Heidegger que c'était la langue, et qu'on habitait sa culture linguistique. Alors, évidemment, les cas de figure sont différents de zones géographiques à d'autres, parce que en Afrique, par exemple, si j'en parle du Jean Calvet, qui est un ami linguiste, la majorité des Africains sont plurilingues. Ils parlent 5-6 langues. En Belgique, on peut imaginer que beaucoup de gens parlent 2 ou 3 langues. En Suisse aussi. Bon. Et en France, on en parlait aussi plusieurs, jusqu'au moment où l'État national a imposé uniquement le français, en réprimant excessivement sévèrement les autres. Je vous signale quand même qu'il y a eu un bataillon de Bretons qui a été fusillé, parce qu'ils n'avaient pas obéi à l'ordre d'attaquer les Allemands en 1915. Parce qu'ils n'avaient pas compris l'ordre, ce n'était pas du tout en rébellion. Ils sont tout à fait patriotes. Donc il y a eu là une bavure, comme on dit. Donc la question de la langue, pour moi, elle est décidée parce que c'est par la langue qu'on exprime ses attentes, ses désirs, ses possibilités, ses faiblesses. Et donc la langue, pour des raisons qu'on ignore, justement, là il faudrait. Je vais poser la question à Alain Berthaus, mais on ne sait pas pourquoi dans notre cerveau, on parle plutôt telle langue que telle autre. Il y en a, on en parlait à table tout à l'heure, on a eu plein d'exemples différents de gens qui disaient bah, « Moi, quand j'étais petit, j'étais élevé dans tel pays, j'ai appris telle langue en même temps à l'école, en même temps que ma langue maternelle, mais en fait, après, en rentrant, bah, j'ai oublié. Bon. » Donc, il n'y a pas non plus des langues qui sont acquises définitivement. Et moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que la langue est plus qu'une langue, c'est-à-dire que c'est plus que simplement des mots et un agencement. Moi, j'expliquais que le mot reste une onomatopée, il n'a pas de racine étymologique dans la plupart des langues occidentales, donc ça c'est déjà intéressant à percevoir. Et le mot qui vient de mu en latin, qui veut dire mot tout simplement, va donner en français muet par exemple, c'est-à-dire celui qui n'a pas de mot. Enfin, donc ça c'est déjà aussi un indice passionnant, c'est que par le mot, j'habite le monde, c'est-à-dire que je ne peux pas habiter si je ne sais pas nommer. C'est ce que disait Heidegger dans son texte. Et c'est vrai que, évidemment, l'urbanisme, par exemple, je vous disais tout à l'heure que le mot apparaît pour la première fois en 1910. Mais on peut considérer les travaux haussmanniens peut-être comme de l'urbanisme. Mais on n'avait pas le mot pour le dire. Donc, c'est le rapport à la langue est en fait la dimension existentielle de l'être humain. J'en suis fondamentalement persuadé. Et je le vois avec mes étudiants qui sont de culture idéogrammique, c'est excessivement difficile qu'ils traduisent ces termes-là
en termes alphabétiques, parce que ce n'est pas du tout la même structure mentale. Ce qui permettait à dire à Ivan Illich, que j'ai beaucoup aimé, pour moi c'est un des plus grands esprits que j'ai rencontrés, Ivan Illich expliquait dans un livre magnifique qui s'appelle « Lisible au visible », où il explique comment il y a eu la Renaissance du XIIe siècle, avec l'apparition, la généralisation de la lecture silencieuse qui va produire la ponctuation. Non, ben, je ne vais pas raconter tout ça. Je fais un cours sur l'histoire de la virgule. On n'a pas le temps, le mot virgule lui-même est très intéressant. on est un peu coincé par le temps, mais alors, il explique quoi ? Il explique qu'au XIIe siècle, par la langue, on prend la dimension de soi-même. C'est ça, c'est-à-dire que c'est par la langue. Du reste, on le voit très bien dans la conversation ordinaire, quand on est embêté, enfin, inquiet, c'est justement parce qu'on ne trouve pas le mot juste. Donc on voit bien à quel point la langue est indispensable, c'est une sorte de baromètre de nos humeurs.
Non, mais si c'est le cas, l'appauvrissement de la langue constaté c'est beaucoup aujourd'hui est problématique.
Mais il faut réactiver. Moi, je relance le mot accueillance. Accueillant, c'est beaucoup plus riche, un monde du Moyen-Âge, c'est beaucoup plus riche que l'hospitalier. Donc je suis pour une ville accueillante, bon. Pas hospitalière.
Certainement.
Privance, pardon. Privance, c'est un mot qui va donner privé en français, mais qui veut dire douceur. C'est magnifique. La vie privée, c'est la vie
de douceur. Bon, ben, sur ces mots, sur la douceur, je vous propose de lever la séance. Merci à tous les deux, Hugues et Thierry. Merci beaucoup.